Sylvie, à vous de jouer. Ouais, vous avez aussi la bouche pleine.
Ouais, je termine. Je bois un petit couvent. Non, j'ai pas le temps. Alors moi, j'aurais bien aimé vous apporter un vin chinois, mais on n'en trouve pas en France, malheureusement, pour le moment. Et pourtant, là-bas, ça commence vraiment à bouger. Il commence vraiment à y avoir des choses à boire, du vin plus artisanal que ce qu'on a fait avant, et qu'on mélange plus forcément maintenant au coca.
Ça viendra. Oui, c'est ça. Mais ça viendra un jour, alors, hein, le vin chinois.
Ça va bien. Moi, j'ai déjà goûté des trucs pas mal. Ouais.
Hein. On en trouve chez Soif d'ailleurs, à Paris.
Ouais, mais bon, disons, pour les auditeurs, c'était pas non plus facile de.
Effectivement.
Ouais. Voilà. Et moi, j'ai goûté des choses déjà assez intéressantes. Voilà, mais bon, ils ont aussi, voilà, on découvre, on défriche. Mais de toute façon, la Chine, c'est une culture de goût. On en parle. Et ça devient aussi un pays de vin. Voilà, ça plante à coups de milliers d'hectares dans des conditions extrêmes. On enterre les vignes l'hiver, on les déterre au printemps. On construit des gros châteaux au milieu. Et puis, on ouvre aussi plein d'écoles de dégustation. Ça fleurit partout. Ça intéresse vraiment les Chinois. Mais bon, pas de panique. Il n'y a pas de risque d'invasion pour le moment. Voilà. Quand les Chinois boiront 5 litres par habitant et par an, il y aura plus de vin sur la planète.
Par contre, les Chinois rachètent nos châteaux, pas souvent les meilleurs d'ailleurs, mais bon, c'est autre chose, c'est notre question.
Il n'y a pas que les Chinois. Voilà. Et donc, à propos d'invasion, j'ai eu envie d'aller chercher du vin en Alsace.
Ah,
mauvaise blague. Parce qu'on n'y va pas souvent en Alsace, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les restaurants, c'est des bouteilles trop longues qui ne logent pas dans les casiers.
Ah oui,
voilà.
Elle est longue et longue et longiligne et grande cette bouteille.
Voilà, et puis on a toujours peur de... Bah moi qui la trimballe dans mon sac dans le train, ça dépassait, alors que d'habitude ça ne dépasse pas.
C'est vrai.
Ouais. Et puis on a souvent peur du sucre aussi, on a peur aussi des écœurements. Il y a eu de l'exagération, le côté balcon de géranium alsacien quoi. Et donc voilà, mais aujourd'hui, l'Alsace commence sérieusement à bouger. Et le vin naturel lui va vraiment bien, ça a éteint un peu aussi toutes ses ardeurs. Et surtout, il va bien à cette cuisine chinoise qui a besoin de vin blanc, alors qu'on y met souvent du rouge. Et les Chinois ont la culture du rouge, le drapeau aussi. Voilà. Et elle a besoin aussi de beaucoup de fraîcheur pour que l'acidité tienne les épices.
C'est ça.
Voilà, il ne faut pas de vin trop fragile ou trop délicat, il faut que ça tranche.
Oui.
Et c'est aussi une cuisine très énergique qui a besoin. Alors c'est drôle, j'ai longuement discuté avec Hélène Yuan, qui a fait 10 ans d'accord mes vins dans un super restaurant chinois à Bordeaux, qui s'appelle Le Bonheur du Palais.
Ah mais oui, voilà. Super restaurant. J'ai pas eu la chance de m'y attabler, mais vous en avez entendu parler, Alexandre Fontaine ?
Oui, il est connu, mais je ne suis jamais allé non plus.
Ouais, une vraie gastronomie chinoise.
Ouais.
Et puis avec une carte des vins extraordinaire. Mm-hmm. Et donc c'est drôle parce que Hélène Yuan, elle disait, moi je retrouvais vraiment le pendant dans les vins en biodynamie. Cette énergie, elle la retrouvait dans ces vins-là. Et donc ça tombe bien parce que l'Alsace, c'est une terre, c'est la terre de la biodynamie.
Ouais.
C'est là où la première ferme en biodynamie s'est créée. L'année qui a suivi le discours de Rudolf Steiner en 1924, qui a déclenché en fait cette histoire de biodynamie dont on nous saoule.
Et oui, mais enfin, c'est important.
Mais justement, j'ai pris un vigneron qui n'est pas en biodynamie.
D'accord.
Il est en bio. Il essaie de rester dynamique, ça c'est ce qu'il dit. Mais c'est pas facile de trouver un vigneron qui n'est pas en biodynamie en Alsace. Hein.
Ah oui.
Et ouais. Donc voilà, c'est un type plutôt jeune, plutôt discret. C'est pas un gourou, c'est pas un orateur, c'est un gars qui fait son boulot. Voilà. Et puis il aime son boulot. Et puis il a toujours su que ce serait le sien, ce boulot. Son père a fait des patates, des céréales, des bêtes, un peu de vin, jusqu'à la grande claque de l'industrialisation de l'agriculture qui a rendu les agriculteurs monoculteurs, comme les autres. Voilà. Et Jean-Pierre, quand il sortait de l'école, il allait dans les vignes.
Oui.
Et puis il a rejoint son père en 87. Puis gentiment, il s'est converti en bio en 2008, donc ça met un peu de temps, hein, il prend le temps, voilà. Mais comme il aime ce qui est fait, c'est du bon sens paysan, quoi. Mais comme il aime ce qu'il fait, il aime goûter, il sait que c'est dans la dégustation quand même tout ça. Il a vite remarqué que avec le bio, on gagnait quand même plus de fond. Les terres se réveillaient, il se passait plus de choses, on allait vers la minéralité. Et puis comme ça le passionne un peu, il a monté avec des copains un groupe de dégustation où ils ouvraient des bouteilles à l'aveugle toutes les semaines. Et comme il trouvait certaines bouteilles meilleures que les autres, il a contacté les gars qui les faisaient. Alors c'est des Jean-Pierre Frick, des Patrick Meyer, des Bruno Schuller, première génération des vins un peu nature en Alsace.
Des belles signatures alsaciennes.
Voilà, des belles signatures. Et puis qu'on débroussaillait tout ça, quoi. Et qui font donc du vin avec le minimum d'intrants dedans. Voilà, et Jean-Pierre Rich, ça lui a plu, il s'y est mis, appuyé par le conseil de ces mêmes gens. En fait, ce que je voulais un peu vous expliquer aujourd'hui, c'est que c'est souvent comme ça que ça commence, les vins naturels. C'est pas un marché qui a été inventé à Paris dans les bistrots par une caste bourgeois bohème, comme les journalistes nous le rabattent souvent.
Mmh.
Voilà, ça vient de l'envie des vignerons. C'est eux qui ont envie de retrouver leur raisin, de pas l'abîmer avec des intrants, des soufres, enfin, trop de sulfite, trop de filtration. Et voilà, pour ces gens-là, ils ont fait ces vins-là souvent sans savoir que Paris en boit.
Absolument.
Voilà.
Ça permet de recentrer un peu le débat. Quand
et
même.
Là, quand même, Paris en bois. Apparemment, Elvira a bien aimé.
Mais c'est super, mais ça remet les papilles
d'équerre. Deuxième verre.
Je vais vous dire, quand on a l'image du Riesling qui est effectivement parfois un petit peu pesant en sucre, mm-hmm. là on est sur quelque chose qui remet les papilles d'équerre, on est presque strident
et
au
pourtant,
début.
Et pourtant, on rentre sur un terroir très chaud.
Et c'est salivant.
Ouais, ouais, ouais. C'est très salivant, c'est très salin. Mm. Et on retrouve aussi les côtés fumés qu'il y a un peu dans la cuisine chinoise. Et il y a vraiment, il y a du minéral, c'est un vin super énergique et qui tient sur cette cuisine-là, je pense.
Et ça tient bien sur cette aile vapeur, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Vous nous rappelez les références, chère Sylvie?
Alors, ça s'appelle, attention, en alsacien,
ouais.
Brandluft, ça veut dire air de feu.
D'accord.
Et c'est donc un Riesling 2014. Ça vaut aux alentours de 13-14 euros. Voilà, vous le retrouverez sur le site.
Et c'est vraiment chouette.
Et c'est Jean-Pierre Rich.
Rich, R-I-E-T-S-C-H. Absolument, toutes les références à retrouver sur le site. C'est une très belle découverte. Merci beaucoup, Sylvie, d'intégrer un peu d'Alsace dans cette émission chinoise.